La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je suis Emmanuel Lopez, pasteur de l'Église adventiste à Toulouse. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce temps de réflexion biblique. Pour ce faire, je vous propose de considérer ce matin un passage de l'Évangile selon Luc, un texte que nous allons lire d'emblée, si vous voulez bien. Il se trouve au chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 40 dans la traduction dite du Semeur. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jaïrus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie. Va en paix. » Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit « Ta fille vient de mourir. N'importune plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jaïrus « Ne t'en fais pas, crois seulement. Ta fille guérira. » Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi !» Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits.
Tu es Dieu, au milieu de nos prières, roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence.
Brillons, voulez-vous ? Ta parole est une lampe à mes pieds. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous aider à discerner ce que tu veux nous dire au travers de ce récit et que ce texte, ta parole, nous touche vraiment. C'est ma prière.
Thank you.
Il faut, pour commencer, situer ce passage dans son contexte, puisque le verset 40 commence par l'expression « à son retour ». Ce retour, c'est simplement Jésus qui revient du pays des Géraséniens, de l'autre côté du lac de Tibériade. C'est là qu'il y a eu cette fameuse guérison d'un possédé qui était habité par une légion de démons. Jésus a donc accompli cette guérison, ce miracle extraordinaire, et a ensuite repris sa barque avec ses disciples et traversé de nouveau le lac en sens inverse. Le texte dit « À son retour, Jésus fut accueilli par la foule ». Il ne faut pas s'en étonner. Il est fort probable que l'intervention de Jésus dans le pays des Géraséniens ait été repérée. C'est une nouvelle qui a été très vite propagée. C'est pourquoi Jésus est attendu par une foule qui veut voir celui qui a accompli un miracle aussi exceptionnel. On peut penser qu'il y a deux histoires dans le texte que nous avons lu. L'histoire de Jaïrus et l'histoire de la femme. Moi, je serais tenté de dire qu'il n'y en a qu'une, car il y a de toute évidence une intention dans tout ce passage, où il y a en fait trois intervenants. Cette histoire commence d'abord par l'attitude de la foule, premier intervenant, l'attitude de la foule par rapport à Jésus. Jésus est déjà très populaire, on le voit bien. Quand il descend de sa barque, Jésus est accueilli par la foule comme un héros. Ils étaient tous à l'attendre, dit le texte, et la suite du texte montre bien que la foule a une attitude enthousiaste. Il le presse de tous côtés, les gens le serraient à l'étouffer, dit la traduction œcuménique de la Bible. Il y a là une attitude d'ovation. Le texte poursuit, et voici qu'arriva un homme, deuxième intervenant, du nom de Jaïrus. Il était chef de la synagogue, c'est donc un religieux, quelqu'un de profondément croyant. L'attitude de Jaïrus est très respectable. Alors que la foule est autour de Jésus, le serre de toutes parts, lui, fend les rangs et se jette aux pieds de Jésus. C'est paradoxalement un acte ostentatoire de supplication et d'humilité. Cela mérite d'être relevé. Le troisième intervenant dans ce récit, c'est la femme. Luc, en précisant que cette femme souffre d'hémorragie, veut nous dire qu'on a affaire ici à quelqu'un qui est exclu de toute la vie religieuse d'Israël. Il suffirait de relire certains passages du livre du Lévitique dans l'Ancien Testament pour découvrir que cette femme est impure, considérée comme impure de par ses pertes de sang. Celui qui la touche ou touche l'un de ses vêtements ou qui entrerait dans sa maison est aussi considéré comme impur. On comprend donc que si elle vient par derrière, comme dit le texte, c'est tout simplement parce qu'elle a peur de se faire rejeter par la foule, parce qu'elle n'est pas religieusement correcte. Elle a profité de la cohue. On ne l'a sans doute pas remarqué, elle s'approche de plus en plus près, et puis elle se dit « Si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je pourrai assurément trouver la guérison. » Il y a donc dans tout ce passage un personnage central, Jésus, et puis il y a trois intervenants, trois façons de l'aborder en fait. La première, c'est celle de la foule, une foule en liesse. La deuxième, l'humilité, attitude très religieuse de la part de Jaïrus. Et la troisième façon d'aborder Jésus, un peu étonnante, celle de cette femme qui se cache presque.
Rien ne
Je pense qu'il y a derrière cette longue séquence de l'Évangile un thème qui est développé par l'évangéliste, qui est un thème fondamental. Comment peut-on entrer en relation, en contact avec Jésus, et quelle différence cela fait-il dans ma vie? Et je crois qu'il y a dans tout ce passage trois réponses qui sont données, qui correspondent à trois attitudes différentes. La première attitude, c'est celle de la foule. J'ai souligné tout à l'heure combien cette foule était enthousiaste. Pourtant, on découvre un peu plus loin dans le texte quelque chose qui peut surprendre en comparaison de cette attitude favorable. Quand on vient annoncer que la fille de Jaïrus est morte, et que Jésus dit « elle dort », et que Jésus dit encore « elle n'est pas morte », le texte dit au verset 53 « les gens se moquaient de lui ». Les gens, c'est-à-dire le groupe qui est là autour, la foule qui a suivi Jésus parce qu'elle était intéressée par ce qu'il allait faire. Au début, ils sont enthousiastes et puis, quand il y a une parole de Jésus qui est difficile à comprendre, qui dépasse la raison, alors ils se moquent de lui. La foule est versatile. Il y a là quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Cette foule a eu le contact le plus étroit possible avec Jésus, au point, répétons-le, qu'elle était en train de l'étouffer, mais contrairement à ce que nous allons voir pour la femme tout à l'heure, cette foule touche Jésus et rien ne se passe dans ce contact. C'est une relation tout à fait stérile. Ces gens sont attirés par Jésus et pourtant, parce qu'ils ont une relation de groupe qui n'est pas une relation individualisée, une vraie relation, à la moindre difficulté, ils tournent casaque. Ils se moquent, dit le texte. Ils n'ont pas foi en Jésus. Je crois qu'il peut y avoir dans notre christianisme d'aujourd'hui une attitude comparable à celle de la foule. On suit la masse, on pratique une certaine religion parce que cela fait partie d'une tradition. On vient à l'église, au temple, on a l'impression qu'on est près du Christ, qu'on est avec lui. Mais finalement, quand il y a une parole du Christ un petit peu difficile, parce qu'on n'a pas une relation personnalisée avec lui, je me répète, vraie, authentique, alors on ne comprend plus rien et on se détourne. Cela me paraît dramatique. Ils étaient tout prêts, ils le touchaient et pourtant rien. Avez-vous remarqué la réaction de Pierre quand Jésus pose la question « Qui m'a touché ?» Pierre lui dit « Non, mais ça ne va pas !» Tout le monde te touche. Tout le monde touche Jésus et rien ne se passait. Voilà donc une première attitude. Deuxième attitude, deuxième manière d'aborder Jésus, après celle de la foule, c'est celle de Jaïrus. J'ai souligné tout à l'heure combien c'était un homme qui avait su s'humilier. Il y a cependant dans la démarche de Jaïrus un certain nombre de choses qui me gênent. Le récit dit que Jaïrus suppliait Jésus de venir dans sa maison. Le fait de dire à Jésus « Viens, entre dans ma maison, ma fille est malade », ça me paraît un peu décalé par rapport à la gravité de la situation, comme si le fait d'entrer dans la maison était vraiment le problème. Jaïrus dicte à Jésus l'attitude qu'il doit avoir. Et notez bien que Jésus obéit à Jaïrus. « Tu as dit que je dois venir chez toi, eh bien, je viens. » Seulement, il faut du temps pour aller chez Jaïrus, et pendant ce temps-là, la femme arrive, Jésus est retardé, et la petite fille meurt. Tout ça me fait penser à un autre récit évangélique d'un personnage qui est aussi quelqu'un d'important, un centurion, un officier romain, qui avait lui aussi un serviteur malade. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Je ne sais pas si vous connaissez cet autre récit, il se trouve dans le chapitre précédent, dans l'évangile selon Luc au chapitre 7. Il ne lui a pas dit « Écoute, viens dans ma maison, tu pourras sans doute faire quelque chose ». Non, il lui a dit « Moi, j'ai l'habitude de commander, quand je donne des ordres, il suffit que je dise une parole pour qu'on obéisse. Toi, Jésus, dis un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. » Et quand il est retourné chez lui, le serviteur était guéri, Et quand il a demandé « à quelle heure ?», c'est à l'heure à laquelle il avait rencontré Jésus. Vous voyez la différence par rapport à Jaïrus ? Au premier abord, Jaïrus, qui est quelqu'un de religieux, Jaïrus a foi en Jésus, mais finalement, pas suffisamment, pas au point de dire à Jésus « ma fille est malade, je te la confie, je te fais confiance, c'est à toi de décider ce qu'il faut faire ». Le centurion avait pleinement confiance en la parole de Jésus. Jaïrus, lui, malgré toute sa religiosité, n'avait pas beaucoup de foi, tout compte fait. Et ce qui me conforte dans cette idée, c'est que quand on lui a annoncé que sa fille était morte, on a très nettement l'impression qu'il flanche. Jésus le reprend d'ailleurs. « Crois, crois, mon ami, fais confiance. » Ce qui veut dire qu'il ne croit plus. Tout simplement parce que Jaïrus avait imaginé et s'était dit « Tant que ma fille est vivante, Jésus peut éventuellement faire quelque chose. Maintenant qu'elle est morte, personne ne peut plus rien. » Heureusement, la grâce de Dieu étant surabondante et son amour débordant, il y aura quand même une intervention. Jésus intercède et la petite fille ressuscite. Cela aurait pu être autrement, je pense. Nous aussi, bien souvent, nous considérons qu'il y a un certain nombre de choses que Dieu ne peut pas faire. Nous manquons de foi. Et puis, il y a la femme. Là, c'est tout autre chose. C'est très étonnant. Lui toucher le bord du vêtement, comme s'il y avait une puissance dans le bord, la frange du vêtement. Et pourtant, Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. C'est automatique dans le texte. On a l'impression qu'elle a mis le doigt sur le bouton, et à partir du moment où l'on met le doigt sur le bouton, il y a quelque chose qui se passe. Et vous remarquerez que la femme n'a pas parlé à Jésus, si ce n'est qu'après, pour se dévoiler. C'est pourquoi Jésus a posé la question, non pas qui m'a supplié, qui m'a honoré, qui ceci ou qui cela, mais qui m'a touché. Ce qui est en jeu ici, dans tout ce passage, c'est la qualité du contact. Un contact, une confiance, un attouchement, l'attouchement de la foi, qui est tellement, disons, simple, élémentaire, mais tellement vrai qu'il déclenche une puissance forte au point que Jésus s'en aperçoit. Un miracle déclenché par la foi. C'est fantastique.
Touche Jésus maintenant, il est là près de toi.
J'ai l'impression que notre christianisme d'aujourd'hui est un christianisme dans lequel on touche Jésus de différentes manières, mais Jésus ne s'en aperçoit pas, parce que nous ne le touchons pas suffisamment d'une manière personnelle, d'une part, et d'autre part parce que nous ne le touchons pas suffisamment avec foi, avec la certitude que quelque chose va sortir de cette rencontre, de cet attouchement. Et permettez-moi de prendre quelques exemples rapidement. Lorsque nous ouvrons notre Bible, parole de Dieu, disons-nous entre chrétiens,
endroit privilégié où l'on rencontre Dieu, où l'on rencontre le Christ. Est-ce qu'on touche la Bible au sens figuré, bien entendu? Est-ce, je veux dire, est-ce qu'on aborde, est-ce qu'on lit la Bible avec la certitude qu'une force va en sortir qui va transformer notre vie? Lorsque nous prions, le faisons-nous avec la certitude qu'une force va sortir de Dieu et transformer notre vie? Lorsque nous allons dans une église, au temple, rendre un culte à Dieu, sommes-nous convaincus, avons-nous l'impression qu'une force salutaire va se dégager de cette rencontre qui va transformer notre vie? Cette femme a touché avec foi, avec une espérance et une confiance absolue. Qu'en est-il de nous? Voilà qui doit, me semble-t-il, nous faire réfléchir et nous conduire à une relation plus intime, plus personnelle, et surtout à une foi sans limite qui fera que lorsque nous toucherons, Jésus dira « Oh, il y a une force qui est sortie de moi !»
Touche Jésus maintenant, il est là près de toi. Saisis le bord de son vêtement, laisse agir ta foi. Il veut te donner ce don.
Je vous invite à dire une dernière prière. Oui, Seigneur notre Dieu, que l'exemple de cette femme nous fasse réfléchir dans ce sens et nous aide à entretenir avec toi une vraie relation de foi. Une relation qui ne se contente pas seulement de celle du groupe, de la communauté, de l'Église à laquelle j'appartiens. Une relation qui dépasse les apparences et attitudes religieuses conventionnelles. Mon Dieu, augmente en moi la foi afin que je saisisse ta force, afin que je vive. Amen.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Sans amour, et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire? Et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même.